Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Cluny pour celles et ceux pour qui c'est la première journée de ces magnifiques rencontres. Bienvenue à l'atelier sur l'écologie comme choc démocratique que j'ai le plaisir d'animer avec Marie-Hélène Baquet, professeure de sociologie et d'urbanisme. Marie-Hélène s'intéresse depuis plusieurs années aux enjeux de participation citoyenne, aux questions d'empowerment et aussi aux transformations des quartiers populaires en France et en Amérique du Nord. Marie-Hélène Baquet est notamment l'auteur avec Mohamed Meshmash d'un rapport pour une réforme radicale de la politique de la ville en 2013 dont vous avez dû entendre parler. À ma gauche, Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques à Paris 8. Tu as aussi consacré quelques années, pour dire light, quelques années aux théories politiques de Jürgen Habermas. Et tu es auteur de différents livres sur l'histoire des procédures et processus de démocratie participative et de démocratie délibérative de la Grèce antique à nos jours. Et tu as notamment écrit sur la façon dont la démocratie participative est en action en France à travers différents objets que sont les budgets participatifs, le tirage au sort ou les jurys citoyens. Pour ma part, je m'appelle Vendry Jumeau, je suis un agent public et je suis aussi fondateur du LIER, un réseau d'acteurs publics écologistes lancé il y a 3 ans et qui vise donc à réunir des agents publics écolos qui ont la conviction que en temps de nouveaux régimes climatiques et face aux urgences et l'importance des transformations qui sont à conduire, eh bien, l'action publique notamment doit être mise au diapason de ça et donc doit se préparer à des transformations et bifurcations radicales et profondes. Le LIER est partenaire de ces rencontres et ces rencontres sont non pas un temps zéro, même si certains depuis hier disent que l'an 1, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. C'est toujours enthousiasmant de dire que c'est un temps 1, mais en vérité, sur tous les sujets qui sont au programme de ces 2 jours, on n'est pas du tout sur un temps 1. Ça fait des décennies, parfois même des siècles, que ces questions sont débattues. Et donc, c'est notamment dans cette optique de contribution concrète à un débat qui nous précède et qui est encore long, parce qu'il y a encore beaucoup de chantiers à venir, que Yves et Saint-Omer et Marie-Hélène Baquet ont répondu à l'invitation de l'instant d'après et aux organisateurs que nous remercions, parce que ce genre de moments, on le réalise depuis hier, sont extrêmement précieux et on va essayer de faire un bon usage de l'heure ennemi que nous avons. Le débat avec Yves, avec Marie-Hélène, va s'organiser en 3 temps, et à chaque fois qu'il y a un temps, ils interviennent tous les deux, environ 5 minutes, et on ouvre le débat à la salle. Et donc on invitera ceux qui ont des questions à venir, comme ça a été fait hier, dans le couloir et prendre la parole. L'idée, c'est qu'on n'ait pas un bloc d'intervention, puis du débat, et qu'on essaye de vous permettre de réagir d'abord au diagnostic qu'eux portent sur la situation, ensuite de réagir sur leurs propositions, sur la façon dont les écologistes pourraient formuler un projet écologique radical à la hauteur des enjeux, et ensuite vous puissiez aussi réagir sur l'analyse qu'ils font, sur comment tout ça fait système et comment tout ça nécessite de passer des alliances avec tout un tas de forces dans la société. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Les organisateurs de l'instant d'après nous ont transmis, et ça a été complété par Yves et Marie-Hélène, un certain nombre d'interrogations que je vais partager avec vous en 2 ou 3 minutes et que j'ai légèrement complété ou intégré aussi ce qui a été dit hier par un certain nombre d'intervenants, parce qu'il est intéressant que la discussion d'aujourd'hui intègre tout ce qu'on a pu partager dans la journée d'hier. Le point de départ, c'est qu'au-delà des expériences, de leurs expériences de gestion dans les ministères, dans des grandes agglomérations, dans des villes ou dans des villages, les écologistes sont confrontés en France ou ailleurs à la question majeure du saut énorme que devrait faire la société pour transformer ses modes de production et de consommation, ses rapports entre classes sociales, genre ou territoire, pour devenir vraiment soutenable. Et cela dans un monde où tout n'est pas une simple affaire de bonne volonté ou d'intérêt général bien compris, mais de conflits d'intérêts et de pouvoirs susceptibles de déchaîner des forces souvent violentes, des conservatismes et des puissances mises en cause. C'est ce qu'Antoine Chollet nous rappelait notamment hier soir, quand il nous rappelait que derrière la question de la mise en récit, on est quand même sur une question éminemment politique avec un rapport de force et des batailles à mener. dans un contexte aussi où l'intérêt pour la chose publique se détourne partout des institutions classiques de la représentation et où une partie de l'opinion croit pouvoir trouver un débouché dans la nostalgie, le repli identitaire, les eaux glacées du chacun pour soi. Tout ça, ça implique à la fois un travail sur un imaginaire, et on a exploré un petit peu le sujet hier soir avec l'atelier présidé par Erwan Lecoeur, mais ça implique aussi un mode de construction des alliances écologistes, un sujet qui a aussi été un petit peu effleuré à l'atelier République et écologie auquel Isabelle Houcault et Claire Monod intervenaient. D'abord, en vue de la conquête de la majorité sociale, culturelle et électorale, il va falloir construire des alliances, mais aussi en vue d'un exercice suffisamment durable du ou des pouvoirs pour que le changement écologiste s'inscrive à la durée. Il y a la fameuse classe écologique, dont je ne citerai pas l'auteur, ou alors le peuple de l'écologie, à la sauce Farbias-Bamer, comme on voudra, mais il y a aussi le rapport avec tous les autres, tous ceux qui ne sont pas de cette classe écologique émergente et que nous voulons structurer, et qui ne sont pas forcément naturellement du peuple d'écologie. Et comment on fait émerger du coup une véritable écologie populaire au-delà du cercle que nous connaissons. Ce qui est en question est aussi une pratique de la démocratie, qui ne peut pas se résumer au fait de dire vrai, d'annoncer et de prévoir les alternatives de l'avenir, ou dans la capacité technique à proposer et à déployer des politiques nouvelles en faveur des populations. Donc les écologistes, ni avant-garde sur le simple discours, ni technocratie dans la simple mise en œuvre de leur politique publique de transition, bifurcation, révolution, nous sommes invités à mettre la société en mouvement autour des objectifs de la conquête et de la transformation du ou des pouvoirs politiques, économiques, médiatiques, d'expertise, de genre, etc. Donc le grand chantier que les organisateurs de ces rencontres nous proposent d'ouvrir, c'est que signifie cette mise en mouvement du point de vue de la démocratie. On l'a vu hein, dans le rapport à la nature, on a déjà vu tout le chantier qui est devant nous sur comment la transformation écologique appelle à des mouvements, et donc là on va s'intéresser au champ démocratique. Les quelques questions qui sont proposées, pas forcément pour aujourd'hui, mais pour l'avenir, c'est est-ce que ça se fait du point de vue du changement d'institution, illustré notamment dans la thématique ancienne de la VIe République. Est-ce que c'est notamment une réforme des pouvoirs locaux et régionaux, la fameuse question de la décentralisation? Est-ce que c'est une question de bifurcation vers des cadres nouveaux et aussi une capacité à rénover les anciens? On pense notamment aux agro-paritech ou aux polytechniciens, aux jeunes générations qui notamment rejoignent le LIER et veulent inventer de nouvelles façons de faire l'action publique en nouveau régime climatique. Est-ce que c'est des questions d'extension considérable de la démocratie au champ de l'économie, du social et de l'écologie? J'ai croisé Guillaume Duval tout à l'heure, ça pourrait lui parler. Est-ce que c'est aussi des enjeux, et surtout, nous croyons, ce sont des compléments que Yves et Marielle ont apportés, c'est aussi une question de démocratisation de la gouvernance globale. Notamment, pour reprendre les conclusions de Lucille Schmitt hier midi, une démocratisation de la gouvernance globale qui non seulement accepte la pluralité des approches, et d'ailleurs dans quelle mesure la démocratie, une démocratie écolo doit accepter une pluralité des approches qui ne sont pas écolo, aussi une gouvernance globale qui accepte la conflictualité et aussi qui investit le champ institutionnel et qui, comme le disait Lucille hier midi, invente un nouveau cadre politique et n'investit pas seulement des champs que je vais mentionner tout à l'heure, qui sont des champs plus citoyens, des expériences radicales minoritaires qu'on trouve dans les ZAD ou dans les mouvements citoyens. Comment on tient tout ça? Bref, tout ça pose des questions de capacité à, aussi pour les écologistes, à capter en temps réel l'état de l'opinion et son envie d'agir, cette capacité à négocier des objectifs de transition, des étapes, à réaliser des pas en avant et des compromis. Et donc la grande question, c'est quelle est donc la vision écologiste contemporaine de la démocratie? Qu'apportent aux écologistes les notions nouvelles d'empowerment, les démarches et les boîtes à outils ou les boîtes de nouveaux outils de démocratie participative directe ou délibérative, comme les référendums d'initiatives citoyennes, le tirage au sort, etc. Quelles leçons aussi tirons-nous du mouvement des Gilets jaunes? Et comment en faire que les expériences radicales minoritaires, mais qui, dans une certaine mesure, préfigure un autre avenir, dans les ZAD ou ailleurs, que les réformes aussi menées à l'intérieur des institutions, notamment dans les municipalités écologistes, je pense là, par exemple, à la façon dont le maire de Grenoble, durant le Covid, dans un moment d'extrême urgence, a organisé un espace de dialogue avec des citoyens pour expliquer et dialoguer les mesures qu'ils prenaient en état d'urgence sanitaire. Voilà. Là où d'autres avaient une approche beaucoup plus verticale. Donc c'était aussi dans les institutions locales que les écologistes innovent. Et puis aussi comment ce qui se passe dans les ONG, dans les mouvements sociaux écologistes, des plus institutionnalisés comme Greenpeace ou FNE, aux plus radicaux comme Alternatiba ou XR. Comment tout ça peut converger suffisamment pour provoquer un choc démocratique capable de mobiliser massivement les populations afin d'aboutir à des changements suffisants pour répondre aux défis du siècle. Ce qui est... Voilà, tout ça. Non, on ne répondra pas à tout ça. Et tout ça fait aussi écho, cette dernière partie, à ce que Catherine Harrère nous disait hier, dans le fait que sur l'aspiration à plus de social, il y a eu un deal à l'époque, et ça a été repris en main par l'État, qui a intégré la demande sociale en intégrant avec des organisations syndicales la sécurité sociale, des enjeux de protection sociale. Et donc, il y a eu une intervention très forte de l'État. Catherine Harrère nous disait hier que, du point de vue de la transformation écologique, il ne faut pas tout attendre de l'État. Et on peut, elle nous expliquait que c'est notamment par plus de démocratie et c'est notamment des initiatives citoyennes, du débat démocratique qu'émergeront d'autres alternatives, d'autres solutions que celles qu'on peut attendre naturellement de l'État ou qu'on ne peut pas attendre de l'État. Voilà, autant de questions que nous proposons de lister pour les prochains mois et de débattre avec nos intervenants. La conclusion d'hier soir faisait état d'un besoin d'imagination, un besoin à la fois urgent d'imagination, parce que écologie ou barbarie dans certains territoires, c'est maintenant ou bientôt. La conclusion d'hier nécessitait aussi de l'importance d'apporter une pierre à l'édifice. Donc c'est ce à quoi Yves et Marianne proposent de contribuer modestement dans un débat en trois temps. Premièrement, où en sommes-nous de votre point de vue sur ces nombreuses questions? Deuxième question, qu'est-ce que pourrait être du coup à l'aune de là où nous sommes et des enjeux qui sont devant nous, les grandes briques d'un projet écologiste pour provoquer justement le choc démocratique dont on parle. À toi, Yves.
Merci Vendry, merci aussi à tous les organisateurs pour m'avoir convié à ces journées. Je suis écolo depuis des décennies, non encarté aujourd'hui, et je crois comme beaucoup, je ressens fortement ce besoin de moments d'échange où chacun d'entre nous croise action, réflexion, et où, dans un moment très particulier, on puisse collectivement progresser. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, en cinq minutes, l'idée que je voudrais faire passer, c'est que nous avons tendance à sous-estimer la crise de notre système politique démocratique tel qu'il s'est stabilisé après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas simplement un problème de la France, même si évidemment le système politique français a des traits particuliers, a un contexte particulier, la Ve République, le président, la centralisation, la verticalité, on connaît tous cela. Mais il me semble que ça va bien au-delà et que lorsqu'on prend en gros les systèmes démocratiques reposant centralement sur l'élection, des partis en compétition, un espace public un peu près libre, qui caractérise le Nord global, on a eu des décennies, ce n'était pas simplement les 30 glorieuses d'un point de vue économique, on pourrait dire que c'était aussi les 30 glorieuses d'un point de vue politique. Et qu'on pense que ça va continuer. Et je pense que ça ne va pas continuer. Et que des transformations extrêmement profondes sont en cours, qui touchent de façon différentielle les pays, plus fortement ou moins fortement, sans doute l'Europe du Nord, l'Europe centrale est moins touchée que l'Europe du Sud, mais qui est un phénomène global. Sur quoi pouvait reposer la stabilité de ce système politique après la Seconde Guerre mondiale? D'abord, il reposait sur le fait que ces pays étaient au centre du monde et qu'ils pouvaient bénéficier d'une division du travail favorable à l'échelle de la planète, de l'utilisation massive des ressources de l'ensemble de la planète, fondée sur un American way of life ou un European way of life ou un French way of life qui n'était pas universalisable, et qui nous permettait aussi, militairement, diplomatiquement, donner là des relations internationales. Ça relève du passé aujourd'hui. Et nous sommes provincialisés, nous sommes confrontés à la nécessité d'un changement extrêmement profond de notre mode de production et de consommation. Et la possibilité de redistribuer des ressources qui venaient de l'ensemble de la planète aujourd'hui est profondément remise en question. Deuxièmement, ça reposait aussi sur le fait que, même s'il y avait le mouvement de construction européenne, les démocraties se coulaient dans le cadre des États-nations, qui, grosso modo, avaient des marges d'action suffisantes pour prendre des décisions efficaces et fonctionnelles. Or, aujourd'hui, de plus en plus de décisions, en particulier sur les thèmes écolos, se prennent à des échelles qui ne sont pas des échelles nationales, même si les États-nations continuent à jouer un rôle. Et on n'a pas, à l'échelle transnationale, de cadre qui soit démocratique au sens fort du terme et qui nous permettrait de faire face de façon démocratique aux défis du siècle et en partie aux défis majeurs de l'écologie. Troisième dimension qui permettait cette stabilité, on avait des partis populaires relativement massifs qui permettaient à la fois d'organiser la société à travers directement leur action, mais aussi à travers les réseaux d'associations, de syndicats, qui, en gros, ancraient la politique institutionnelle au niveau social, qui permettaient de faire une synthèse entre des territoires, des groupes sociaux, des demandes extrêmement différentes, qui permettaient d'instituer un canal de communication entre décideurs et citoyens, et qui sélectionnait le personnel politique institutionnel. Or, aujourd'hui, les partis, y compris les Verts, me semble-t-il, continuent à sélectionner le personnel politique, pour l'essentiel, mais ne jouent plus ce rôle d'organisation de la société. Les associations, les syndicats ont pris leur indépendance, les partis ont une implantation sociale qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était. Quand on prend les 50 plus grands partis européens, ils ont perdu plus de la moitié de leurs adhérents en quelques décennies, et on parle simplement d'adhérents. Quand on parle en termes de militants actifs et de militants actifs qui ne sont pas dans les institutions, l'effondrement est beaucoup plus important. Et donc les partis ne jouent plus ce rôle de centre de gravité des systèmes. Et le décalage entre les citoyens et les institutions politiques et le système politique institutionnel a énormément augmenté. On est en plus confronté à l'émergence de thèmes qui n'étaient pas au centre, comme en particulier le défi des générations futures, le défi des non-humains. Ils ne votent pas, il n'y a pas d'institution pour les représenter véritablement. Et ce n'est pas à travers le vote qu'on pourra le faire. Comment, dans ces conditions, penser qu'avec les mutations, alors on passe sur la situation de guerre en Ukraine, etc., etc., mais comment penser que la politique au XXIe siècle va rester similaire à celle de la deuxième moitié du XXe siècle. On a tendance à penser que la normalité, comment ça fonctionne normalement, mais la normalité aussi du cadre de référence, ce qui nous permet de juger ce qui va bien et ce qui va mal, c'était ce qui se passait en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. Et peut-être qu'en fait, la normalité du système politique institutionnel reposant sur les élections et les partis en compétition, c'était plus l'Amérique latine. Des élections qui se font régulièrement, mais qui sont interrompues par des tentatives de coup d'État, des gouvernements faiblement légitimés qui tombent au fur et à mesure, des partis politiques qui ne représentent pas grand-chose, des mouvements de contestation qui contestent fondamentalement, non pas simplement le gouvernement en place, mais le mode de régime qui est en place. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu aux États-Unis avec Trump, on l'a vu au Brésil avec Bolsonaro, on le voit dans une série de pays d'Europe de l'Est, mais je crois que le péril monte aussi dans des pays comme l'Italie, la France, l'Espagne. Maintenant aussi, aujourd'hui, le Portugal, nous sommes confrontés à une nouvelle normalité potentielle. Et je crois qu'il faut en prendre la mesure. Si on n'a pas des changements relativement radicaux dans notre système politique, je crois que les risques de dérive autoritaire et de déstabilisation en profondeur, et pas simplement de trous d'air, de notre système, sont extrêmement forts. Et que du coup, il faut prendre les choses à la racine et se dire aujourd'hui quel est le nouveau type de système politique que nous pouvons proposer pour faire face aux défis de ce siècle dans une situation radicalement nouvelle où l'Europe et la France ne sont finalement qu'une province du monde.
Bien, merci aussi de cette invitation à discuter. Hier, dans le débat, Antoine Chollet disait que la démocratie est un processus. Effectivement, c'est un processus, mais c'est aussi un champ de tension, un champ de renouvellement, comme vient de le dire Yves, et un champ de remise en cause. Et il me semble qu'effectivement, voilà, sans redévelopper ce qui vient d'être dit, que la période actuelle est marquée par ces remises en cause et montre que rien n'est jamais acquis et que la démocratie est un combat permanent. Alors, où en sommes-nous dans un paysage international, effectivement, qui est un paysage marqué par des virages autoritaires forts, par des inquiétudes autour des tensions, des tentations autoritaires, y compris en France, alors même si ça prend pas forcément la même forme que dans d'autres contextes, à la fois par la montée de l'extrême droite, mais aussi par des logiques autoritaires qui semblent s'imposer lors des au cours des derniers gouvernements, depuis notamment la loi travail, la répression contre les gilets jaunes, la loi contre le séparatisme, qui implique aujourd'hui des formes de répression associative importantes dans les quartiers populaires. Bien sûr, tout cela n'est pas équivalent, mais il me semble important de le montrer. Le deuxième élément, bon, qui est bien connu, hein, c'est les limites de la démocratie représentative, notamment marquées par l'abstention, et notamment l'abstention dans les quartiers populaires, qui fait qu'aujourd'hui, on a des assemblées, des institutions dans lesquelles une bonne part de la jeunesse populaire, notamment, ne se reconnaît pas parce que ce sont des assemblées, je pense notamment à l'Assemblée nationale, qui n'ont jamais été aussi homogènes depuis la libération. Et les populations racisées, notamment, se sentent très loin de ces assemblées dans lesquelles elles ne sont pas représentées, même si au niveau local, on peut commencer à observer des transformations dans les formes de représentation. Le troisième élément que je voudrais souligner, c'est que, en même temps, dans ce contexte inquiétant, on voit également se développer, s'exprimer une forme des demandes de démocratie, des formes de participation, à la fois dans les mouvements sociaux. Je pense à tous les mouvements des places, par exemple, qui mettaient en leur centre la question de la démocratie, à des collectifs. On a cité tout à l'heure le collectif d'Alternatiba, à la fois donc dans des mouvements sociaux, mais aussi dans ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une démocratie d'initiative qui se déploie à différentes échelles, à la fois dans le champ de l'économie sociale et solidaire, de l'habitat participatif, des ZAD. Qui est aussi une démocratie propositionnelle, une démocratie du faire, mouvement qu'on observe en France, mais qu'on observe aussi dans d'autres contextes. Je pense par exemple aux États-Unis, à la façon dont aujourd'hui se refonde toute une partie du mouvement de community organizing autour de ces questions à la fois d'écologie et à la fois de démocratie. Donc ces expériences, elles sont pas nouvelles, ça a déjà été d'hier, elles ont une longue histoire qui démarre au tournant du siècle, du précédent siècle, mais elles se multiplient et surtout elles sont à la source de réflexions, de propositions, d'inventions qui amènent à repenser plus globalement le champ de la démocratie. Et puis à côté de ces expériences qui viennent des citoyens, il y a aussi effectivement toute une série d'expériences portées par des collectivités territoriales à différentes échelles qui montrent également des formes d'institutionnalisation de cette question de la démocratie participative. Alors, ça amène au niveau national, notamment, à un certain paradoxe entre précisément cette institutionnalisation de la démocratie participative, ce recours permanent à la notion de participation, et la réalité, la façon dont sont mobilisées ces notions. Je pense notamment à la façon dont, en France, Macron a mobilisé le grand débat, qui était un grand flop, hein, mais au nom de la démocratie participative et à la suite d'un mouvement social profond, le mouvement des Gilets jaunes. D'une autre façon, parce que c'est très différent en même temps, à la conférence citoyenne pour le climat, qui a été un grand moment de démocratie, qui a montré comment des citoyens dits ordinaires pouvaient prendre en compte, travailler sur une question fondamentale, faire des propositions de façon tout à fait sérieuse, mais qui n'a pas été suivie politiquement ensuite dans la prise en compte de ces propositions. Ou je pense au flop tout récent du Conseil national de la refondation, où là aussi on s'appuie, Macron a repris un certain nombre de notions, hein, tout un vocabulaire en le détournant. D'où un risque qui me semble majeur aujourd'hui, finalement, de découragement des citoyens par rapport à toutes ces initiatives, toutes ces expériences participatives. Voilà, qui vient contredire, en fait, qui vient s'affronter à toutes les expériences locales. Donc c'est sur ce paradoxe-là que je voudrais porter l'attention.
Merci à vous deux. Voilà pour quelques éléments rapides de diagnostic que Yves et Marie-Hélène avaient envie de partager. On propose de prendre une ou deux questions, mais vraiment sur cette partie diagnostic. Ils vont être amenés à formuler des propositions dans un instant. Mais est-ce que sur cette partie état des lieux diagnostic, certains ont envie d'approfondir, de questionner ou de compléter? Et ça peut se faire en venant ici, puisque le micro... à moins que quelqu'un accepte vous apporter ce micro.
Oui, bonjour Patrick Franjou. Moi, je remercie les intervenants pour leur contribution. J'aurais une remarque sur les relations démocratie participative, démocratie représentative, parce qu'on a tous suivi, participé à des expériences au niveau municipal, une part du budget qui est discutée par la population, etc. Le problème qu'on voit quand même, c'est que je me fais un peu l'avocat du diable, hein, ces expériences regroupent souvent les personnes les plus motivées ou les personnes qui viennent avec déjà une certaine option sur l'issue du débat, ou encore des personnes tirées au sort mais qui sont accompagnées de formateurs qui leur donnent des éléments qui les incitent à penser à telle ou telle solution, et qu'on voit du coup des fois des contradictions entre les conclusions des assemblées délibératives, qui des fois perdent un peu aussi d'audience et de participation, et puis ce que les représentations élues locales ou nationales finissent par décider. Donc comment est-ce qu'on peut articuler ça, c'est une question. J'aurais même derrière un exemple international, et j'en termine là-dessus, c'est l'échec du référendum au Chili, hein, avec beaucoup d'idées, une constitution qui fait je ne sais pas combien de pages dans lesquelles on a mis le plus joli des programmes, et à la fin, quand même, le pays qui la rejette.
Oui, bonjour. Moi, j'ai travaillé toute une partie de ma vie sur des questions de participation citoyenne, justement, aussi bien avec des enfants et des jeunes qu'avec des adultes en fin de carrière. Et ce qui me marque, et c'est, je crois, une question qu'il faudrait travailler, c'est la peur qu'ont les élus. Alors là, je parle d'élus locaux, hein, parce que j'ai essentiellement travaillé dans des collectivités territoriales. La peur des élus locaux face à la parole un peu libre, que ce soit celle d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et quand je dis une peur, pour certains, c'est un cynisme, mais pour d'autres, c'est une véritable peur, c'est un véritable manque de confiance en soi. C'est mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire et qu'est-ce qu'on va en faire? Et comment on pourrait travailler cette question-là? Alors, je ne pense pas que ce soit une question de formation, mais là aussi, ça renvoie peut-être à ce qu'on a beaucoup dit ici hier. C'est sans doute aussi une question de culture démocratique.
Oui, j'aurais une question. Il me semble qu'il y a une évolution récente qui s'est accentuée, qui concerne les institutions de la Ve République et le rôle du président de la République. On a à la fois une partie des citoyens qui critiquent la dérive autoritaire du pouvoir, et en même temps une fascination d'une autre partie de la population, et parfois des mêmes, pour cette façon de fonctionner. Une bonne partie de la droite était nostalgique de Sarkozy. On a moqué le faible corps du roi incarné par François Hollande. Et on a aujourd'hui une dérive carrément caporaliste, napoléonienne, jupitérienne. On a eu je ne sais pas combien de débats sur l'énergie. On a des scénarios qui montrent que c'est possible de réduire la part du nucléaire, que ce soit Négawatt, RTE, ADEME, etc. Et de façon unilatérale, sans aucun débat, ne serait-ce qu'au sein du gouvernement ou du Parlement, on a un jour un président qui annonce 6 EPR. Et on ne se révolte pas.
On propose de poursuivre le débat. On refera un temps de questions ensuite. Yves, Marie-Hélène, quel rebond ?
Oui, sur les questions de participation, je me réserve pour la deuxième partie. Je crois qu'il faut qu'on s'interroge sur le fait pourquoi il n'y a pas de parti écolo, ou quasiment aucun, digne de ce nom, c'est-à-dire qui pèse vraiment dans les pays du Sud. Pourquoi ? Est-ce que ça ne renvoie pas à quelque chose d'extrêmement profond ? Ce n'est pas simplement un hasard. Sur la question française, on a un système, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, qui est particulièrement délétère avec ces institutions qui poussent déjà à peu de contre-pouvoir, peu de décentralisation comparé aux pays voisins, et qui en plus se coulent a fortiori dans une posture jupitérienne avec le président actuel. En même temps, quand on regarde les pays parlementaires voisins, on voit bien que la solution, ce n'est pas simplement un régime parlementaire. Regardons l'Angleterre, regardons l'Espagne, regardons l'Italie. Alors, l'Allemagne, ça va mieux. Ça ne fait pas rêver la politique allemande, mais au moins, c'est un peu plus sérieux. Il y a des contrepoids. Les décisions sont prises à l'issue de processus qui sont tout de même plus dialectiques que chez nous. Et en même temps, ça va mieux aussi parce que l'Allemagne a une autre position dans la division internationale du travail, mine de rien, ça joue aussi, qu'elle s'en sert mieux. Et puis, ça va mieux jusqu'à un certain point, simplement. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas non plus le système allemand qui fait briller les yeux, ni des Allemands eux-mêmes, ni des Européens en général. Et que du coup, il faut à la fois critiquer avec virulence ce mode particulièrement bonapartiste et césarien qu'on a aujourd'hui en France, et en même temps se dire la solution, ce n'est pas simplement de faire à l'italienne, à l'anglaise, voire même à l'allemande.
Sur les questions effectivement de participation, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais effectivement, il y a une grande frilosité de la part des élus locaux et des élus nationaux à déjà entendre ce que disent les citoyens, notamment les citoyens des classes populaires, et à co-gérer, à co-décider ensemble, avec quand même cette vision du pouvoir qui est tenu par les institutions et par les élus, hein, et finalement les citoyens déléguant leur pouvoir au moment des élections, et puis dans l'entretemps avec très peu de moyens d'agir sur ces décisions. On l'a bien vécu avec Mohamed Meshmash. Quand on a rédigé notre rapport, Cécile Duflot nous avait demandé de retourner la table. Donc, on a essayé de retourner la table. Mais la table, en fait, on a réussi à créer une dynamique participative avec des habitants des quartiers populaires, avec des collectifs, qui a donné la création ensuite du collectif Passons-nous, hein, dans les quartiers populaires. Mais on s'est heurté à un plafond, y compris chez des élus de gauche, y compris dans des villes dirigées par la gauche, et au niveau national, on a été très peu porté par les partis politiques, quels qu'ils soient, en fait. Hein, et nos revendications, nos propositions, qu'elles aient les plus loin, n'ont pas été reprises au moment des différentes élections et de l'élaboration des différents programmes. Donc oui, il y a un frein très, très important, ce qui vient permettre d'embrayer sur la question suivante, sur ce qui était que pourrait être un projet écologique pour provoquer un choc démocratique. Il me semble que un des enjeux principaux d'un projet écologique, c'est précisément de sa capacité à articuler enjeux sociaux, enjeux démocratiques et enjeux écologiques, et sa capacité à se construire en même temps à différentes échelles territoriales et à articuler ces différentes échelles. Et or, cette question-là me semble quand même très, très peu débattue, et il me semble qu'on est souvent dans deux volets qu'on aborde séparément. D'un côté, la question écologique, de l'autre côté, la question sociale et puis la question démocratique. Or, les classes populaires, du point de vue démocratique, sont quand même celles aujourd'hui qui sont le plus exclues du système de démocratie institutionnelle. Elle développe des formes d'expression, des formes de solidarité, des formes d'organisation à l'échelle des quartiers, à l'échelle des territoires. Mais ces formes d'expression, ces formes d'initiative sont rarement reconnues. Et quand elles existent, et y compris d'ailleurs quand les classes populaires, qui sont aujourd'hui en France beaucoup, pas seulement, mais beaucoup, notamment dans les banlieues des grandes villes, des populations racisées, quand elles commencent à vouloir prendre leur place dans le champ de la politique institutionnelle au niveau local, elles sont bien souvent taxées finalement de communautarisme. Donc l'enjeu de la reconnaissance des classes populaires dans le champ politique me semble aujourd'hui essentiel. Et puis les classes populaires sont aussi les premières à subir la précarité énergétique, la pollution, la malbouffe, les problèmes de santé. Elles sont au cœur de la crise écologique. Et si on se déplace et qu'on regarde, qu'on a une vision un peu plus large nord-sud, eh bien, on voit que les inégalités sont encore plus prégnantes. Et donc, ça implique que les choix autour de la question climatique renvoient à des choix qui sont aussi et avant tout des choix redistributifs. S'il faut transformer les modes de consommation, ça a été évoqué ce matin, c'est d'abord les modes de consommation des plus riches, c'est-à-dire effectivement pas seulement les 1%, mais des classes supérieures et d'une partie des classes moyennes dont nous sommes, qu'il faut d'abord transformer. Or, dans beaucoup de pratiques, dans de débats sur l'écologie, eh bien, bien souvent, les classes populaires ne sont pas là. Beaucoup d'initiatives qui tendent à développer d'autres modes de vie sont très loin, finalement, des classes populaires. Même si un certain nombre de travaux, je pense notamment aux travaux de Léa Bilen, montrent qu'il existe dans les quartiers des formes de ce qu'elle appelle une écologie ordinaire qui ne se revendique pas de l'écologie, mais qui renvoie à des pratiques écologiques. Avec un bémol quand même sur lequel je voudrais insister, il me semble qu'il faut aussi faire attention à tout un discours qui se développe aujourd'hui. J'étais il y a pas très longtemps dans une université populaire, dans une ville très, très populaire, qui posait cette question de comment est-ce qu'aujourd'hui on s'organise autour des enjeux écologiques. Il y a quand même un débat, toute une série d'idées qui disent voilà, les classes populaires, finalement, elles sont déjà sobres, elles ont une culture de la débrouille, elles sont déjà de ce point de vue écologique, il faut mettre en avant ces pratiques de la sobriété. Mais la sobriété, c'est pas, ou la décroissance, c'est pas la pauvreté, à mon sens, c'est pas la pauvreté non choisie. Ce discours se développe aujourd'hui avec toute une vision sur l'effondrement, sur le fait qu'il faudrait faire face collectivement et que dans les quartiers populaires, on sait être solidaire et on saura faire face collectivement. Donc ce discours-là me semble dangereux. Donc la réduction, la croissance ou l'appel à la sobriété ne peuvent pas, donc, de ce point de vue, constituer le seul projet. Il me semble que c'est un projet qui doit s'appuyer, comme je le disais, sur un projet de redistribution qui amène des choix écologiques, mais qui, en même temps, propose un horizon de mieux vivre. Tout le discours de la sobriété doit aussi ouvrir un horizon. Et hier, on parlait d'imaginaire. Moi, je parlerai d'horizon. Comment rendre cet horizon désirable, notamment pour les classes populaires? Et il me semble que c'est une question importante qui se pose aujourd'hui. Et puis, dernier point, ce projet ne peut être élaboré que démocratiquement, il ne peut que s'appuyer notamment sur des débats qui seront des débats conflictuels, parce que les enjeux, les intérêts des différents groupes sociaux sont conflictuels, y compris au sein des classes populaires. On l'a vu au moment du mouvement des Gilets jaunes, les classes populaires des banlieues ne sont pas allées manifester, ou très peu avec les Gilets jaunes. Donc, je pense qu'il ne faut pas éviter cette dimension de la conflictualité et réfléchir aux moyens qu'on se donne pour débattre de ce que serait ce projet écologique et de la façon dont il peut être planifié. Il me semble que cette notion de planification, j'y reviendrai tout à l'heure, est importante, dont il peut être planifié et élaboré à différentes échelles démocratiquement.
Je serais curieux de savoir, si on faisait un sondage sur c'est quoi la vision des écolos, ou c'est quoi plus précisément la vision d'Europe Écologie Les Verts sur la démocratie, je serais curieux de savoir quelles seraient les réponses et quel serait le degré de connaissance des citoyens normaux sur la question. Et j'ai bien peur qu'il ne serait pas énorme. Je m'amusais à lire le titre de la résolution sur la démocratie du Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts de mars 21 pour un renouveau démocratique, représentativité, clarté et confiance. Je ne suis pas certain que les mots d'ordre parlent à tout le monde. Alors évidemment, c'est facile de se moquer, de prendre des résolutions d'organisation et de les mettre en exergue. Mais plus fondamentalement, est-ce qu'il y a une vision écologique sur la démocratie, en particulier sur les institutions démocratiques? Je pense qu'aujourd'hui, probablement, il y en a une sur deux éléments. D'un côté, l'Europe, et de l'autre côté, la construction, disons, fédéraliste, ancrée sur les territoires, de pratiques de transformation écologique. Sur le deuxième point, je pense qu'il s'agit d'un point fort, et que si cela pouvait être mis en musique véritablement, et transformé en un véritable modèle, et je pense qu'on en est loin, ça pourrait être un point fort. Tu citais tout à l'heure l'exemple de Grenoble, et effectivement, il est important de le mettre en avant. Est-ce que dans quelques années, on pourra dire, voilà, dans les municipalités écolo en général, la marque de fabrique, c'est ça au niveau local. Et je pense que c'est un enjeu tout à fait crucial, sur lequel vous avez sans doute plus de billes que moi, mais je voulais simplement le signaler. De l'autre côté, l'enjeu européen, il est aussi tout à fait crucial, et on voit bien aujourd'hui à quel point l'Europe est à la fois nécessaire et une source de protection et un échelon démocratique incontournable. Mais on voit bien aussi, en même temps, la profondeur des difficultés auxquelles la construction européenne est confrontée, avec notamment une quasi-sécession d'une partie des pays de l'Est, la montée en puissance de tendances autoritaires. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que je n'ai pas répondu tout à l'heure à Dominique, mais si on continue avec un écart aussi important entre les simples citoyens et la politique institutionnelle, s'il n'y a pas des voix, et je vais y revenir immédiatement, qui rétablissent une vraie communication, une vraie capacité d'influence sur la prise de décision des citoyens, alors les tentations de s'en remettre à des dirigeants charismatiques ou des dirigeantes charismatiques et autoritaires va croître. Parce que c'est comme ça que finalement on fera appel à des émotions, à des sentiments qui, évidemment, risquent, du coup, d'être tournés vers le pire et pas vers le meilleur. Donc, je reviens à mon propos. D'un côté, le fédéralisme enraciné sur les territoires. De l'autre côté, l'Europe. Et après. Et là, je pense qu'il y a un grand vide de la pensée écolo sur ces questions-là. Il y a des expérimentations locales, de nouveau, qui peuvent être pas simplement les municipalités, mais qui peuvent être les ZAD, qui peuvent être des mouvements de coopératives, d'agriculture différentes, d'économie sociale et solidaire. Mais à d'autres niveaux, il me semble qu'il n'y a pas quelque chose qui soit suffisamment structuré. Quand je relisais là, à l'instant, cette déclaration du Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts, là encore, tout de même, le fondement, c'est revenir à un parlementarisme sain. Il me semble que c'est à côté de la plaque. Ce n'est pas ça dont nous avons besoin.
Et donc, de quoi on a besoin ?
De quoi on a besoin ? Il me semble que cela peut passer par plusieurs dimensions. Première dimension, il faudrait que les écolos soient à la pointe d'institutionnalisation, de dynamique, de démocratie directe, de démocratie participative, de démocratie délibérative à tous les niveaux, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes. Et Patrick, tu avais raison en soulignant. Ceci dit, quand on les compare aux problèmes de la politique institutionnelle aujourd'hui, je pense que c'est que chi, pour aller vite. Il faut réfléchir à ça, il faut systématiser, mais il faut résolument se tourner vers l'institutionnalisation de cela. Je pense que si, à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne avait été instauré en France, on aurait changé de République sans même changer le titre de la Ve République. Mais ça aurait permis quelque chose de fondamentalement différent. On a eu des exemples d'assemblées citoyennes tirées au sort. On sait les méandres dans lesquels le président de la République nous a engagés en ne respectant pas les promesses qu'il avait faites pour la Convention citoyenne pour le climat. On a eu à l'échelle européenne une conférence sur le futur de l'Europe où il y avait des députés européens, des députés nationaux, des citoyens tirés au sort nationaux et européens. C'est extrêmement encadré, l'influence a été relative. Un des députés européens des Verts, dont je ne citerai pas le nom, a dit « on ne peut tout de même pas filer la parole à des bouchers et des je ne me rappelle plus quoi ». Mais enfin, c'était en privé. Mais le groupe des parlementaires européens des Verts ne s'est pas particulièrement fait remarquer par une élaboration et une dynamique forte sur la question. Individuellement, il a pu y avoir des députés qui le faisaient, mais pas collectivement. Donc, premier grand ensemble, la pensée écolo devrait être une pensée de démocratisation institutionnelle de la démocratie à travers des formes d'innovation démocratique diverses, premièrement. Deuxièmement, il me semble que les écologistes ne pensent pas suffisamment systématiquement la démocratisation des sciences et des techniques. Et le fait qu'au niveau institutionnel, il faudrait instituer des mécanismes de participation démocratique sur ces grands choix démocratiques et techniques. Il y a des campagnes politiques sur telle ou telle chose, mais il y a relativement peu de campagnes pour donner un caractère structurel à cela. L'exemple que tu évoquais de Grenoble est de ce point de vue-là extrêmement instructif. Il faudrait systématiser cela et dire une politique écolo va systématiser la participation des citoyens sous des formes diverses à discuter, à la discussion des grands choix techniques, technologiques, de société, sur les sciences, etc. Qu'est-ce que les écologistes ont à dire, par exemple, avec le fonctionnement des autorités indépendantes de régulation, qui sont tout à fait fondamentales pour prendre des décisions quotidiennes qui nous concernent, depuis la mise sur le marché des produits chimiques, des aliments, etc. À l'échelle européenne, c'est tout à fait fondamental. C'est des organisations qui fonctionnent de façon technocratique, avec peu de contrôle du Parlement et avec un poids des industries qui est tout à fait fondamental parce qu'elles produisent l'expertise. Ce n'est pas simplement le lobbying au sens filer du fric pour corrompre les gens. Ça, c'est la pointe émergée de l'iceberg. Mais sur le fond, ça fonctionne avec l'expertise des grandes entreprises. Et je pense que dire l'expertise doit aujourd'hui pouvoir être contradictoire, soutenue par les pouvoirs publics pour pouvoir amener les ONG écolo, les associations écolo et les citoyens ordinaires dans la balance est tout à fait fondamental. Ça devrait être un étendard écolo. Peut-être que ça ne serait pas, dans un premier temps, extrêmement populaire et ça n'amènerait pas des voix, mais je pense que c'est tout à fait décisif. Et puis, troisième grande dimension. Aujourd'hui, la plupart des décisions, elles se prennent bien au-delà des institutions élues officielles. La gouvernance globale, entre guillemets, mais même les processus de gouvernance à des échelles régionales ou nationales, elles incluent des acteurs privés et publics. Et je crois qu'il faut le thématiser, qu'on est au-delà de la division des pouvoirs traditionnels, qu'aujourd'hui, plus encore qu'hier, les décisions, elles se prennent en coopération avec des instances élues, avec des instances technocratiques et avec des grands acteurs privés, pensez au niveau global avec les géants du net, comment on réintroduit les citoyens dans le processus, comme un acteur aussi à part entière. Il n'y a pas de solution miracle, ça c'est sûr, on le saurait. Mais en tout cas, en faire une vraie thématique au-delà de la politique institutionnelle électorale me semble tout à fait crucial. Je ne suis pas sûr que, là encore, les écolos au stade actuel aient une politique définie sur la question.
Il y a des questions en bas de l'amphi, toujours les bons élèves, mais on va aussi se tourner vers les cancres du fond de l'amphi. Du coup, si vous voulez bien vous rapprocher... Non, mais il y a les plus intéressés à qui on va aussi redonner la parole, ceux qui prennent la parole à chaque débat, mais ceux qui n'ont pas encore pris la parole aujourd'hui, donc les deux personnes.
Bien, alors, je vais être très maladroit parce que les données de ma question, je ne les maîtrise pas complètement, enfin, en tout cas au niveau de la synthèse. Le point que vous avez évoqué, le deuxième point que vous avez évoqué sur le problème de la démocratisation des sciences et des techniques, m'évoque une question plus large qui est souvent objectée à toute velléité de démocratie participative ou de démocratie plus radicale, c'est la question de la compétence. La question de la compétence est inégalement répartie. Et je crois qu'effectivement, enfin, je voulais vous demander ce que vous en pensez là-dessus, parce que c'est effectivement une objection experte très souvent faite et qu'on pourrait aussi faire fonctionner dans l'autre sens, dans le sens où la séparation expert-citoyen ou la séparation chercheur-citoyen induit aussi une profonde ignorance ou une profonde difficulté à connaître du côté de l'expert et du chercheur, parce que précisément il est possible, et vous évoquiez tout à l'heure la question de la démocratie du faire, qu'on pourrait aussi appeler démocratie de l'expérimentation, il est possible aussi que les expériences de démocratie participative que nous connaissons pêchent du côté de la production de connaissances et des modes de production de connaissances. Parce que les démocraties expérimentales ou les tentatives d'organisation produisent de la compétence organisationnelle qu'il est très difficile de partager, de diffuser, de mettre en mots, parce que les acteurs en question sont pris dans des structures de temps contraint, parce qu'ils ne sont pas, parce qu'on les dépossède de l'évaluation des résultats de leurs expérimentations. Et je donnerai un simple exemple, c'est que dans un certain nombre d'ateliers, ici, on est sur un territoire dans lequel il y a quantité d'associations qui développent quantité d'expérimentations, liées ou pas, très souvent liées au monde paysan, mais pas uniquement, et dans lesquelles les acteurs sont pris dans des structures de temps telles qu'ils ne parviennent pas ou difficilement à diffuser le savoir qu'ils produisent et le savoir-faire qu'ils produisent au-delà des lieux où ils travaillent. Et j'en ai vu un certain nombre que je connais bien faire des bonds de 1 mètre ou 1 mètre 50 sur leur chaise en étant, excusez-moi, en entendant certaines choses dans certains ateliers qui témoignaient d'une ignorance en réalité de ce qui se produit sur le terrain. Et en réalité, tant que cette séparation a lieu, les expériences de démocratie participative, est-ce que vous ne pensez pas qu'elles seront forcément un peu simulées, un peu tronquées, un peu inabouties ?
Je suis un élu local, maire de ma commune, et je pense qu'il y a une solution de démocratie qui est négligée, c'est de se présenter aux élections. Je vais prendre le dernier exemple des élections municipales sur la Saône-et-Loire. 60% des communes avaient un résultat connu à l'avance du premier tour parce que ça manquait de candidats. Et je regrette sincèrement qu'on n'ait pas plus de personnes qui se présentent à ces élections pour apporter un débat. Déjà au moins pour apporter le débat en campagne électorale, puis éventuellement pour être élu et participer ensuite à l'élaboration de la politique locale. Je le regrette, je le déplore. Je vous invite à y réfléchir.
C'est l'un des symptômes d'une crise de démocratie représentative et au fait que ça a été un peu évoqué. Mais...
Oui, merci Vendry. C'était aussi pour remercier Yves Saint-Omer des questions qu'il a posées. Pour faire évidemment le lien avec ce que nous avons évoqué hier, ici même, dans l'atelier d'en face. Vous disiez qu'il n'y a pas de solution miracle, et bien sûr. Je dirais deux choses. En revanche, ce qui est sûr, c'est que chez les écologistes, il y a un besoin urgentissime de construction d'une école de formation structurée, organisée et portée par le mouvement pour développer à la fois et les questions et potentiellement la doctrine. Je pense que là, il y a un capital qui se perd dans les sables mouvants depuis des années et depuis trop d'années. Ensuite, il n'existe pas non plus, je pense, de réponse toute faite par rapport à ce que vous avez évoqué. Vous avez pris dans le cadre de la question démocratique quelques exemples et évidemment, on est d'accord. Mais du coup, on a, nous, entrepris une démarche dont Vendry parlait rapidement tout à l'heure, que l'on a intitulée « La Convention pour une République écologique ». Alors, quand on dit ça, là, pour le coup, on passe pour des gens extrêmement prétentieux et qui ont les réponses à tout. C'est absolument pas la question, ni le positionnement, puisqu'au contraire, nous voulons précisément, pour répondre aux questions que vous vous posez, lancer un processus. Parce qu'en fait... et ça m'a frappé hier dans les questions justement qui se sont qui sont apparues après la présentation, c'est que il y avait dans la salle des gens qui attendaient des solutions toutes faites. Mais alors la République écologique, c'est quoi? Alors attendez, parce que il y a quand même quelques révolutions structurelles, ontologiques, philosophiques, politiques et évidemment institutionnelles qui méritent quand même que l'on y passe un petit peu de temps et que l'on y réfléchisse collectivement. Et je pense que ce que vous décrivez comme une carence, une lacune, et alors 100 fois oui, d'abord avec plaisir pour en reparler avec vous, mais ensuite ne pas imaginer qu'il y a une réponse et qu'elle est prête. Je pense que le problème, c'est qu'en fait, elle n'est pas prête et qu'elle ne sera pas prête. C'est un processus. Patrick avait rappelé ce qui s'est passé au Chili. Nous avons suivi le processus de très, très près pour nous rendre compte qu'un pays est prêt, à travers un référendum, à approuver la mise en place d'une constituante, à porter ses travaux pendant un an et à la fin... finalement, de voter de telle sorte à ce que ça ne puisse pas emporter la majorité. Pourquoi ? Parce que, et c'était ma conclusion, et je pense qu'elle peut vous répondre en partie à la question que vous posez, les institutions ne précèdent pas la bataille culturelle. Or, je pense que le plus important, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir ce genre de réponse, de séminaire, c'est que la vraie question aujourd'hui, c'est d'accélérer sur la bataille culturelle en abordant toutes les questions, y compris ces questions institutionnelles qui sont restées longtemps dans un angle mort de l'écologie politique. Voilà, merci.
Oui, donc j'avais une question... J'ai l'impression qu'il y a un impensé par rapport à un paradoxe qu'il y a aujourd'hui, que les enjeux, en fait, en particulier écologiques, qui sont fondamentalement internationaux, c'est à l'échelle de la planète. Et quand on parle de démocratie, en fait, on a l'impression que ça, on arrive mieux à le penser à une échelle où on fait corps, en fait, où on a un ADN commun, donc la commune, la nation à une certaine période, même si ça s'est un peu perdu. Et donc, en fait, aujourd'hui, même si on remettait une meilleure démocratie dans l'État, moins jupitérien et tout ça, en fait... À la fin, le gouvernement il remet une feuille de route à des institutions internationales qui est validée ou pas par ces institutions dans lesquelles là il y a pas d'ADN en fait, il y a pas de voilà, il y a aujourd'hui pas ou très peu de démocratie en fait. Est-ce que c'est pas à cette échelle là qu'il faut vraiment se poser des questions sur comment on met de la démocratie quoi, et parce que si on en met très bien localement mais qu'on continue à remettre des feuilles de route où il y a pas de démocratie, est-ce qu'on va pas continuer à s'user pour rien quoi?
Alors moi, je suis un petit peu décalé parce que c'était sur l'Assemblée des Gilets jaunes. Mais en fait, je crois que on peut l'intégrer parce que c'est en effet une réflexion sur la démocratie participative. Donc j'ai participé aux assemblées et j'ai fait cette remarque, elles sont rapides. D'abord, quelque chose qui est les méthodes participatives d'animation non violente, avec sa gestuelle, et qui est commune avec Alternatiba. Je veux dire, c'était vraiment très, très utilisé. Deuxièmement, je dirais le rôle des femmes. On a parlé d'un atelier, le CARE. Très, très important. Les femmes ont joué un rôle modérateur, mais aussi de fédérateur. La rencontre, de gens peu engagés avec des gens très engagés. C'était étonnant. Discussion de sourds au départ. Puis après, bon, on arrive à développer des idées communes. Discussion entre des groupes militants concurrents est possible par leur effectif minoritaire. Voilà. Du fait qu'ils étaient minoritaires, bah, du coup, ils étaient obligés de discuter ensemble et découvraient que finalement, bon, ils pouvaient avoir des positions convergentes. Le rôle de l'action qui était fédératrice, de la solidarité, des revendications communes. Par contre, en effet, ce que vous avez dit très justement, la défiance par rapport aux partis politiques, et là, je crois qu'il y a vraiment une réflexion de fond à mener, la difficulté de proposer des alternatives concrètes et consensuelles. Par contre, quelque chose que j'ai découvert, c'est la discussion avec les avocats suite aux arrestations. Et les avocats faisant des cours sur l'état de droit, en disant, voilà, eh bien, si vous voulez, voilà, par rapport au juge, voilà comment ça fonctionne. Et les citoyens découvrant finalement leur justice. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une école citoyenne.
Oui, bonjour. On a parlé de bataille culturelle encore, là. On a parlé vaguement hier d'imaginaire et en fait beaucoup de politique et beaucoup de sciences et de techniques. En fait, on n'a pas parlé de culture. D'ailleurs, il n'y a pas d'atelier consacré à la culture. Donc, on parle de démocratisation des activités scientifiques et techniques tout en disant qu'il faut moins travailler, se cultiver plus, mais on ne pense pas à la culture. Donc, et d'ailleurs, les grandes métropoles écologiques sont pas très fortes dans leur façon de penser la culture. On a parlé pire hier d'hégémonie culturelle à plusieurs reprises, quand même théorique, pas beaucoup de fondements empiriques. Qui laisse penser que les classes populaires ou les classes moyennes encore plus n'ont pas de culture et qu'il faut leur apporter. Je pense quand même que, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, qu'est-ce qu'on fait en matière de démocratisation de la culture, repenser là aussi les rapports entre expertise, métier de la culture et participation à la culture. Voilà, pour moi, ça me paraît être un sujet en fait, qui revient souvent, mais qu'on ne pense absolument pas dans... ces journées-là, et globalement, moi j'aurais tendance à dire dans l'écologie politique, donc si vous avez des billes, ça m'intéresse.
Madame, pour une dernière question.
Bonjour, moi j'aimerais bien rebondir sur ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, à propos des classes populaires. Il se trouve que j'en fais partie, je suis agent d'entretien. Voilà, je vous le dis, je suis bac plus 3 aussi en même temps, ce qui n'empêche pas l'un et l'autre. Alors moi, ça me touche vraiment d'entendre tout ça parce que moi j'ai envie de vous dire voilà nous notre problème à nous c'est quoi notre problème c'est l'argent non c'est bête hein c'est bête parce que pour vous c'est peut-être pas un problème pour nous ça l'est quoi comment je vais dire le fait qu'on soit payé ne serait-ce qu'au SMIC voilà moi je suis SMICard quoi Le fait qu'on soit payé au SMIC, ça veut dire qu'on n'a pas le temps. Pas le temps, parce que le temps, c'est de l'argent. On n'a pas le temps de se cultiver. Je veux dire, voyez, moi, j'ai payé, enfin, voyez, bon, je suis super contente d'être ici, quoi. Mais c'est vrai que ça a été quelque part, on va dire, j'ai bien réfléchi avant. Est-ce que tu vas pouvoir te le payer ? Qu'est-ce que tu vas perdre comme temps ? Etc. et tout. En plus, je travaille de nuit. Je vous fais un pas de dessin. Et en plus de ça... Qu'est-ce que vous en fait, le truc aussi, c'est que bon, on parle aussi des femmes. Il faut aussi penser aux mères célibataires, ben, qui ont double, voire des fois triple journée de travail, parce que non seulement on doit subvenir aux besoins, et là, il n'y a pas le choix. Je veux dire, moi, j'ai des copains autour de moi, des enseignants, tout ça. J'ai mal à la gorge. Je critique absolument pas. Hein, c'est pas ça du tout. Non, je suis pas là-dedans. J'ai mal à la gorge, ah bah, je vais me mettre en arrêt, ah bah, c'est bien parce que je vais être en arrêt jusqu'aux vacances, blablabla. Bah, moi, j'ai envie de lui dire, bah, tu sais quoi, ma poule, bah, moi, je n'ai pas les moyens quoi, de faire ça. Je n'ai pas les moyens de m'arrêter de travailler pour penser à ma vie. Qu'est-ce que je veux faire ? Où suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? En plus de ça, il faut aussi penser à autre chose. Nous, on a un problème aussi de fracture numérique. Je veux dire, on n'a pas forcément les moyens d'acheter des tas de choses. Moi, mon téléphone, voilà, c'est un téléphone à touche. Vous voyez ? Je n'ai pas Internet. En même temps, je suis bien plus écolo que certains, quoi. Parce qu'il y a beaucoup moins de terres rares dedans. Je ne suis pas obligée de le recharger tous les jours. Je le recharge tous les 10 jours. Donc, vous voyez, c'est très bien, quoi, au final. Bon, après ça, il faut quand même aussi savoir une chose, c'est que ben, nous, notre seul loisir, si tant est qu'on puisse appeler ça un loisir, enfin bon, après, chacun fait aussi ce qu'il veut de sa vie. Je ne suis pas, je ne me victimise pas, ah, je suis la pauvre femme de ménage, machin, gna gna gna. Ce n'est pas ça. Je pense un petit peu à tous ceux, enfin, c'est aussi en même temps culturel. C'est souvent le seul accès à la culture. Enfin, la culture, si tant est que, voilà, au sens large, au sens très très large du terme, hein, ben c'est la télévision et c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Je ne vous fais pas de dessin. Et d'autant plus que ben, les jeunes poussent là-dedans. Enfin, je veux dire, moi, j'essaye de me bagarrer avec mon gamin pour qu'il décroche de son téléphone, ce n'est pas possible, quoi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, quoi. Ça, c'est un peu le problème. Et moi, je trouve que toute cette espèce de soi-disant culture, télévisuelle, on nous a coupé les mains, quoi. On nous a coupé les mains. Coupé les mains dans le sens où, voilà, quoi. Moi, il y a quelques années, j'allais manger chez Coluche. Je ne vous donne pas l'adresse, hein, vous devez la savoir. Enfin, peut-être pas, remarquez. J'espère que vous n'aurez jamais à aller les voir. J'ai mangé chez Coluche pendant un an. Voilà. Et quand j'arrivais là-bas à aux distributions fruits et légumes, les gens, oh machin et tout, ils étaient tout contents de me voir, puis ils me donnaient des tas de machins, mais je disais, mais attends, garde-en pour les autres, quoi. Ah non, non, mais les autres, non, non, mais t'inquiète, hein, les autres, ils ne veulent pas de haricots verts frais qui viennent de la Bresse, quoi. Ils veulent des haricots en boîte. C'est pas parce que c'est des cons, puis gna gna gna, puis de toute façon, ils ne savent pas ce qui est bon, tout ça. C'est juste qu'à force qu'on leur dise, qu'on nous dise, ouais, non, mais de toute façon, tu sais, les haricots frais, tout ça, c'est de la merde, ça coûte cher, machin, tout ça. Puis de toute façon, toi, tu ne sais pas y cuisiner. Donc, va acheter plutôt des boîtes de chez Dossi. C'est ce qu'on nous répète, tous les injonctions qu'on a, nous, quoi. Et on nous a coupé les mains, quoi. On nous a coupé les mains. Et moi, la question après, je me dis, ben, comment on fait pour... Et puis alors, moi, je suis totalement choquée. Enfin, on n'a pas parlé de ça non plus. La réforme des lycées professionnels, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un scandale. C'est un vrai scandale, quoi. C'est une honte, quoi. Parce que je me dis, bon, moi, si j'arrive à peu près à m'en sortir, je fabrique énormément de choses. J'expliquerai ça tout à l'heure. Ça vous intéresse peut-être pas, mais bon. Voilà. Mais, je veux dire, c'est parce que j'ai un minimum de bagage, parce que j'ai quand même eu la chance de m'accrocher à un moment. J'ai quand même Bac+3. Voilà. Donc, ça donne un savoir. Ça m'a permis de savoir chercher dans les livres, de savoir rédiger. C'est tout bête, et de savoir répondre à des questions que mon gamin me pose, quoi. Mais c'est tout bête. Mais je crois que si j'avais pas eu ça, je me serais jamais sortie de cette galère. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, mais l'éducation, quoi, merde, l'éducation. Le savoir populaire, l'éducation populaire. C'est, voilà. Enfin bref, merci.
Merci pour ce témoignage et voilà, toutes les idées que vous avez avancées, les points forts. Effectivement, la question de l'alimentation qui a été pendant longtemps une question peu travaillée en France quand même dans les quartiers populaires, hein, alors qu'elle est, au Canada ou même dans certains quartiers aux États-Unis, c'est une question sur laquelle les associations communautaires travaillent depuis plus de 30 ans, hein, sur à quelle alimentation ont droit aussi les classes populaires et comment elles s'organisent pour avoir une autre alimentation. Il existe en France, il commence à exister quand même toute une série d'initiatives. Hein, je pense à Angers, par exemple, où les copains de Passons-nous organisent des banquets paysans avec les syndicats paysans. Où il y a aussi des traditions de jardins partagés, de jardins ouvriers. Voilà, donc il y a des choses qui se constituent au niveau local. Mais vous avez complètement raison. L'enjeu principal, porté dans des quartiers populaires, c'est effectivement la question économique. Et ça renvoie au point qui me semble fondamental, c'est que un projet de transition écologique amène des choix et que ces choix doivent être discutés. Et qu'est-ce que ça voudra dire pour les classes populaires que cette transition écologique ? Et ça, il me semble que c'est une question à travailler collectivement qui peut être effectivement éminemment conflictuel. Alors, je ne vais pas répondre à tout. Sur la question des compétences, il y a quand même aujourd'hui tout un courant de travail sur les questions de sciences en société, de sciences ouvertes, de sciences participatives, qui me semble assez prometteur et qui interroge précisément cette notion de compétence, cette notion de savoir et la façon dont ces savoirs se construisent et dont ils peuvent aussi se construire collectivement de façon participative et tout en se construisant, tout en ayant besoin aussi de se construire dans le laboratoire. Et donc, sur des échanges de savoir, et ça interroge sur les savoirs qui peuvent s'échanger, les savoirs citoyens, donc qui sont de plusieurs ordres, et la façon dont se mettent en discussion ces savoirs. Hein. Et ça n'est pas une question simple. J'ai participé, j'ai été garante, par exemple, d'une conférence citoyenne sur le climat sur un territoire très populaire à Est Ensemble, dans la région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Où on avait donc une conférence citoyenne de citoyens tirés au sort qui appartenaient quand même majoritairement aux classes populaires et et on a eu toute une discussion sur l'organisation de la conférence en sachant la discussion c'était est-ce qu'on part des savoirs citoyens et de leur savoir d'usage ou est-ce que en même temps on met en discussion on fait tout un travail de formation de savoir scientifique. Et comment se fait cette articulation ? C'est une question qui n'est pas simple, mais il me semble que la réponse est dans la dynamique, en fait, dans la mise en discussion de ces différents savoirs, en faisant attention en même temps de ne pas renvoyer les citoyens à leur seul savoir d'usage. Parce que les citoyens ont aussi des compétences qui leur permettent de rentrer dans les débats scientifiques.
Merci Marianne. Du côté d'Yves, le défi, c'est à la fois apporter des éléments de réponse aux nombreuses questions posées et aussi de commencer à apporter des éléments de réponse à la troisième question qu'on s'était posée, c'est comment tout ça peut faire système, sur qui on peut s'appuyer, notamment du coup, comment on peut faire cohabiter des initiatives locales d'ordre divers qu'on a évoqué depuis une heure, comment on les fait cohabiter et comment tout ça peut faire système pour répondre notamment aux besoins que tu as pointé tout à l'heure, le besoin d'être à la pointe, au besoin de se reconnecter avec les classes populaires et beaucoup plus de citoyens que ceux qui aujourd'hui votent, par exemple. Voilà.
Oui, alors évidemment, ça va être un peu lapidaire. Premier point, il me semble qu'il faut à la fois dire qu'il n'y a pas de recette magique et qu'on n'a pas de truc clé en main. C'est fondamental. Mais il faut aussi dire qu'il y a des expérimentations en cours qui sont extrêmement importantes en France et à l'international et qu'on ne parle pas de zéro. Et il me semble que, de ce point de vue-là, la réflexion écolo sur la démocratie est en retard. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a les recettes, mais par contre, on a des pistes de recherche qui sont expérimentées vraiment et des recherches, des réflexions qui sont aussi liées à des actions de transformation du monde qui, des fois, marchent, qui, des fois, ne marchent pas, mais il faut en prendre conscience et essayer de systématiser et d'approfondir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la question de l'expertise, je rejoindrai ce qu'a dit Marie-Hélène. il y a en particulier chez les jeunes aujourd'hui, dans les mouvements plus libertaires, cette idée, on est tous experts, il faut refuser l'expertise et la coupure, etc. Et il y a une part de vérité là-dedans. On a tous de l'expertise d'usage, mais aussi tous une réflexion sur ce qu'on vit, etc. Et en même temps, c'est faux dans la mesure où il y a différents types d'expertise qui doivent se croiser. Tu en as donné des éléments, mais entre l'expertise qu'on construit à partir de sa propre pratique, la contre-expertise qui nécessite des travaux extrêmement compliqués, longs, etc., que peuvent, par exemple, faire des ONG comme Greenpeace ou d'autres ONG écolo, qui portent un niveau, disons, d'abstraction, de réflexivité, de généralisation bien plus importante, l'expertise, ben, ce n'est pas exactement la même. Et il peut y avoir des conflits entre celles-ci. Et puis l'expertise que des citoyens peuvent acquérir à l'issue d'une conférence citoyenne ou d'une assemblée citoyenne tirée au sort avec un processus bien mené, c'est encore un autre type d'expertise. Comment les articuler, je crois qu'il ne faut pas nier ces différences-là, comment celle liée au développement communautaire peut se déployer. Et là encore, si dans les projets écolos sur la démocratie, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce mot, il n'y a pas cette réflexion sur la pluralité des expertises, je pense qu'on manque quelque chose de fondamental. Alors, encore un point, l'Europe est tout à fait fondamental. C'est quoi le programme écolo pour démocratiser l'Europe? J'avoue, je ne sais pas. Et pourtant, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on défend l'Europe, bien sûr. Mais quelle Europe et comment? Et sur le plan démocratique, qu'est-ce qu'on propose? Dernière réponse, et après je passe au troisième point. Le Chili, la constitution chilienne. Je pense qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce que la Constitution était hyper longue qu'elle a été refusée. Les constitutions latino-américaines des 20 à 30 dernières années, elles sont toutes comme ça. Ce n'est pas à cause du contenu en soi qu'elle a été repoussée. Les constitutions latino-américaines des 30 dernières années, en gros, c'est la même famille. Ce qui a été problématique, c'est non pas l'hégémonie culturelle en général, c'est la façon dont le processus s'est construit, la façon dont le gouvernement s'est construit, le gouvernement avec une base sociale, qui est une base sociale un peu écolo, disons la gauche traditionnelle des banlieues d'un côté, et puis les jeunes cultivés et radicalisés de l'autre, mais en très large mesure, les couches populaires ne sont pas les bases fondamentales du nouveau gouvernement, et une logique d'assemblée dans l'assemblée constituante qu'on peut connaître à des échelles beaucoup plus triviales dans les assemblées générales des universités, etc., où ça se radicalise, et la construction d'alliances a été totalement passée à la trappe et revenu en boomerang, avec y compris sur les thèmes de reconnaissance des identités culturelles autochtones, un vote négatif des régions autochtones sur la Constitution. Et ça m'amène au dernier point, comment on construit des alliances? Il me semble que nous vivons dans une société où il n'y a plus un centre. On a longtemps pensé la démocratie avec un centre qui était les partis et les institutions électives. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et le fait qu'il n'y ait pas de candidats, le fait qu'il y ait beaucoup d'abstention et tout, on est un reflet. C'est que ça reste important, mais ce n'est plus un centre. Il y a une tentation inverse chez une partie des écologistes radicaux, c'est de dire c'est dans le petit, c'est dans la sécession, c'est dans les AT, c'est dans les pratiques hyper locales que tout va jouer. C'est ça le centre et c'est à partir de là que la société va se transformer. Il y a d'autres tentations qui sont celles, disons, de se centrer sur des mouvements de désobéissance civile à des échelles qui peuvent être transnationales en disant c'est ça qui va faire changer le système. Il me semble que la difficulté, c'est qu'on n'a plus de centre aucun, ni l'un, ni l'autre, ni le troisième, ni le quatrième, et qu'il faut accepter qu'on ait des actions écolo à des niveaux extrêmement différents, avec des tensions fortes, parce que entre organiser une assemblée citoyenne, faire une ZAD, faire une municipalité du changement écolo, organiser la démocratisation des conférences pour le climat à l'échelle internationale, tout ça ne va pas de soi et tout ça ne va pas ensemble facilement. Comment s'appuyer à la fois sur la classe écologique et s'adresser aux classes populaires, ça ne va pas de soi non plus. Mais en tout cas, là encore, se fixer l'objectif, le reconnaître et dire aujourd'hui, c'est par une confluence conflictuelle entre des groupes différents, entre des types d'initiatives différents, entre des échelles différentes, qu'on va pouvoir faire changer les choses, me semble déjà être un premier pas, sinon vers la solution, en tout cas pour aller de l'avant.
Ben, j'irais exactement dans le même sens. Effectivement, il y a aujourd'hui plusieurs dynamiques de changement, qui ont de la peine à se croiser. On l'a dit, hein, la multiplication des alternatives, de ce que certains appellent des utopies concrètes, avec des enjeux territoriaux très forts, des scénarios de transition qui commencent à se penser à l'échelle de certains territoires, à l'échelle de villes. Je pense notamment à tous les travaux des territorialistes italiens qui réfléchissent à l'autonomie de bassins de vie, qui travaillent sur les questions d'alimentation, la production de coopératives de logement, l'économie solidaire. C'était il y a pas longtemps au Pays Basque, en Euskadi, où il y a à la fois toute une série d'expériences qui convergent en fait, et qui convergent aussi au niveau institutionnel, puisque il y a une intercommunalité très forte qui s'est créée et qui porte ces expériences. Mais attention, ces scénarios, effectivement, ne peuvent pas être ceux du repli, et ils ne peuvent pas être ceux de communautés autonomes. D'abord parce qu'à mon sens, ils doivent s'appuyer sur des mouvements sociaux, et c'est le cas, par exemple, en Euskadi, où à côté de toutes les expériences, il y a un mouvement social, notamment Bicid, qui conduit de la contestation, qui est très, très présent sur une série de questions sociales, et aussi parce que pour faire bouger le système, eh bien, il me semble qu'il est essentiel que ces initiatives se mettent en réseau pour pouvoir construire ensemble des perspectives de changement. Et donc, cette dimension du réseau qui a été soulignée par bien d'autres travaux me semble important. Et puis, bien sûr, la dimension des institutions qu'a soulevée Yves à différents niveaux. Sur des questions écologiques, on ne peut pas passer à côté, tout en actant que on sait bien aussi que la seule transformation par le haut, par la prise du pouvoir des institutions, a bien montré ses limites et ses dérives, notamment au niveau étatique, et que donc elle doit s'accompagner en même temps d'une réflexion sur la transformation de la transformation de l'État, la transformation de ses formes, des formes de gouvernement. Et donc penser la transformation des services publics et les logiques de co-construction me semble essentielle. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de tenir ensemble la diversité de ces mobilisations, de ces dynamiques, en n'oubliant pas le champ du travail. C'est pas du tout ma spécialité, mais il me semble que le débat démocratique sur les enjeux écologiques, il se pose aussi dans l'entreprise, dans les entreprises, et aussi en y intégrant notamment les emplois qu'on a découverts pendant la crise sanitaire comme étant essentiels. Mais comment aujourd'hui travailler à la reconversion, à la relocalisation de certains emplois, ça se discute aussi dans l'entreprise avec des formes de démocratisation du monde du travail. Donc, Pour conclure, il me semble que c'est une stratégie de la tenaille, comme disait Olling Wright, qui en même temps garde au centre de ses préoccupations la question sociale, et qui s'articule avec la question sociale, avec des expérimentations, des tentatives. Quand, par exemple, Alternatiba travaille avec le comité Adama, il y a des frémissements, mais ça reste encore quand même très 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 expérimental, très très marginal, et cette mise en commun me semble, cette mise en débat, y compris conflictuel, est aujourd'hui essentielle.
Merci à vous deux. On va essayer de respecter les règles communes qui nous ont été fixées, et donc d'aller vers la fin pour respecter votre temps et votre appétit. Pour ramasser un tout petit peu, puis vous poser une question à laquelle vous pourrez répondre en levant la main. Moi, j'en retiens qu'on est en retard, que tout ça est encore faible, qu'on a besoin d'approfondir à la fois la démocratisation de nos institutions, du local jusqu'à l'Europe, de faire dialoguer les initiatives et les expertises, de renforcer le travail en réseau, de démocratiser les grands choix techniques, d'éclairer les grands choix scientifiques. Tout ça avec toutes les parties prenantes, tous les segments de la société, à commencer par les laissés pour compte et ceux qui ne croient pas aujourd'hui dans la démocratie telle qu'elle fonctionne. Il faut être à la pointe de tout ça. Moi, ça m'inspire un mot, c'est au travail. Et je n'irai pas beaucoup plus loin parce que l'idée de ces rencontres, c'est qu'il y ait des suites. Donc, avant que les suites... avant qu'on discute des suites, parce que ce que j'espère, c'est que les organisateurs pourront proposer des espaces de travail à tout le monde ici. Et donc, Claire Monod a présenté, il y a un espace de travail. D'autres seront créés. Ça m'intéresse juste d'avoir votre aperçu, savoir si on a atteint l'objectif. Est-ce que vous sortez de ce débat un peu plus éclairé ? Si vous sortez de ce débat un peu plus éclairé que vous êtes entré, je vous propose de lever la main. Parce que les défis étaient énormes et en même temps, ils sont tellement énormes que on a mesuré à quel point. Voilà. Donc du coup, voilà. Ça a été timide, mais il y a un petit quart. Voilà. Ça, c'est une leçon d'humilité pour tous les intervenants ici et dans la salle. Voilà. Dominique dit que ça rafraîchit sur ce qu'on savait déjà. Une leçon d'humilité et donc au travail et à bientôt pour poursuivre ce travail. Bon appétit et bonne fin de journée.